Je vote pour la science avec Isabelle Burgoyne.
Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que l'on explore du pétrole en Gaspésie. Certains travaux d'exploration pourraient avoir contaminé les eaux souterraines du centre de la péninsule, et cela pour longtemps. C'est ce que concluent les experts lors de l'analyse des eaux souterraines après des opérations de forage et d'acidification des puits Bourg par la compagnie Pirader sur un site proche de Murdochville. La hausse des concentrations d'éléments chimiques dans les eaux analysées, on parle de chlorure, de sulfate, de magnésium, de fer, etc., reste toutefois majoritairement sous des seuils d'alerte. Cette possible pollution en hydrocarbures et d'autres polluants des nappes phréatiques de la Gaspésie suite aux travaux exploratoires pour trouver du pétrole et du gaz inquiète toutefois de nombreux citoyens et groupes environnementaux. Près de la moitié de la population gaspésienne s'alimente par les eaux souterraines pour sa consommation et ses usages domestiques. Alors, quel est le legs de contamination des compagnies d'exploration pétrolière? Nous en parlons tout de suite. Ne quittez pas. À Je vote pour la science aujourd'hui, nous vous emmenons en Gaspésie, plus exactement au cœur de la péninsule, suite à un rapport d'analyse inquiétant de la qualité de l'eau sur le site Bourg après des opérations d'exploration gazière et pétrolière de la compagnie Pirader, une contamination qui inquiète les groupes environnementaux mais aussi les citoyens. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Chantal Savaria. Elle est ingénieure en géologie, chargée de cours à l'Université de Sherbrooke et présidente fondatrice et directrice générale de Savaria Expert Conseil. C'est une firme d'expertise en environnement. Bonjour.
Alors, bonjour.
Et on est en compagnie aussi de Pascal Bergeron, qui est porte-parole du groupe écologiste gaspésien Environnement Vert Plus. Bonjour.
Bonjour.
Donc cela fait depuis la moitié du 19e siècle que des projets d'exploration et d'exploitation pétrolière ont vu le jour en Gaspésie, avec plus de 70 puits construits dans la région de Gaspé entre 1865 et 1950 par notamment Petroleum Oil Trust ou Gaspé Petroleum Company. C'est avant les projets la création de la société québécoise d'initiative pétrolière, la SOQIP. Qu'est-ce que dans cette région, il y a de particulièrement attirant pour cette industrie?
Faut savoir qu'il y a des suintements naturels en Gaspésie, puis c'est pour ça qu'on a commencé à regarder pour du pétrole et du gaz en Gaspésie. Donc, il y avait des résurgences apparentes et la théorie à l'époque voulait qu'on fore là où on en voyait, puis que si on forait là où on en voyait, mais on allait en trouver. Maintenant, c'est le propre de ce genre d'exploitation-là, d'exploration-là, parce que on est toujours demeuré en phase exploratoire en Gaspésie. Donc, c'est le propre de ce genre d'opération exploratoire-là d'être tentative, d'être approximative, puis d'avoir le potentiel de générer de la pollution.
Oui. Quels sont les secteurs, peut-être, les polluants en Gaspésie et les types de pollution, Madame Savaria?
Moi, ce que j'en connais, c'est comme je vous ai expliqué, j'ai travaillé surtout l'exploration au niveau du pétrole. Donc, il y a deux secteurs qui est le secteur à demande, qui est un secteur qui est quand même près des résidents, d'une zone résidentielle. Puis, tu as le secteur de Bourg, où on a fait des forages exploratoires.
Oui.
Donc, c'est dans ces endroits-là qu'il y a un souci en termes de protection de la qualité de l'eau souterraine. Parce que faire des forages d'exploration comporte des risques environnementaux liés à l'utilisation de toutes sortes de produits. Donc, ça demande de bien justifier ce type de forage-là, parce que c'est vraiment nécessaire de faire ça dans des milieux qui sont... des milieux qui sont naturels, des milieux qui sont résidentiels, donc qui ont une bonne bonne utilisation. Donc, c'est là qui était toute la question.
Oui, pour ceux qui ne vivent pas en Gaspésie ou qui la connaissent moins, est-ce que c'est au milieu de la péninsule? C'est à quel endroit, les deux endroits dont vous parlez?
Moi, je connais plus le secteur Abdiman qui est près là, de, dans le fond, de la baie, de la baie Gaspé.
Oui.
Qui comporte, c'est touristique, on est dans ce secteur-là. Je crois que c'est peut-être mon collègue pourrait peut-être vous expliquer, mais je pense que c'est plus central. C'est plus central en Gaspésie.
Oui, M. Bergeron.
Ben oui, le secteur de Bourque, là, on parle de... Murdochville, c'est la seule ville en Gaspésie, la seule municipalité en Gaspésie qui est pas proche de la mer ou dans les terres quelques kilomètres à partir de la mer. Là. Ce qui est exceptionnel à propos de Murdochville en Gaspésie, c'est que c'est une ville qui a été développée beaucoup plus tard autour d'un projet minier qui était porté par Minéraux Noranda, la fonderie Horn en Abitibi, qui est populaire en ce moment dans les médias à cause de ses rejets d'arsenic. Mmh. Donc, ils ont parti une mine dans le cœur de la Gaspésie, une mine d'exploitation de cuivre. Puis le projet Bourque, il est à environ 30 kilomètres de cette municipalité-là. Et au niveau politique, là, l'actuelle mairesse qui était préfet de la MRC Côte-de-Gaspé à l'époque, elle voyait d'un très bon œil ce projet-là parce que elle le voyait comme un potentiel de revitalisation de sa municipalité. Donc, en tout cas, je mêle le politique, le géographique, physique en même temps, là, mais c'est proche de la municipalité de Murdochville qui est effectivement là, loin dans les terres, dans le nord de la péninsule.
Oui, merci. On parle de pollution, on parle évidemment de contamination des eaux aux hydrocarbures. C'est un enjeu vraiment important, Madame Savaria?
Oui, c'est tout à fait important parce qu'il faut comprendre que quand on fait des forages exploratoires, on utilise différents produits puis des additifs. En faisant ça, c'est qu'on introduit ces contaminants-là à l'intérieur des aquifères et qui fait en sorte qu'on a un danger pour la consommation éventuellement quand il y a des puits domestiques qui sont prêts, comme dans le secteur d'Aguiment. Peut-être dans le secteur de Bourque, on n'a pas nécessairement des puits domestiques prêts, mais ce qu'on a, on a quand même des cours d'eau. Alors, ce qui arrive, c'est que quand on a ce genre d'activité exploratoire, ben, on a encore un risque de contaminer des cours d'eau à proximité de ces secteurs-là. Donc, oui, c'est un... Puis, il faut voir que c'est particulier, surtout quand on fait des méthodes qui sont non conventionnelles, donc qui va utiliser de la fracturation hydraulique ou encore de l'acidification, plutôt dans le cas de Gaspésie, parce que ce n'est pas un chêne du cas, mais c'est plutôt un grès. Donc, il y avait question à Bourg de faire la fracturation, il y avait question à Dumas de faire l'acidification, mais ces processus-là vont emmener de la contamination importante au niveau des puits domestiques qui sont situés très près là, de ces secteurs-là et de tout cours d'eau qui est situé dans le secteur. Donc, c'est une grande préoccupation. D'ailleurs, il y a un grand mouvement au niveau des citoyens à Gaspé, au niveau de la ville de Gaspé même, et même d'autres municipalités dans la Gaspésie qui ont dit non à ces forages exploratoires.
Oui. Quand on parle pollution de l'eau, il n'y a pas juste la contamination des eaux, des hydrocarbures, M. Bergeron, il n'y a pas que ça?
Non, mais ce qu'on a vu dans le secteur de Bourque, c'est un peu ce qu'on craignait puis ce qu'on avait annoncé au début de l'ère du gaz de schiste, c'est-à-dire que à Bourque, on planifiait un test de fracturation. Finalement, on a reculé sur le procédé. On a fait un test d'acidification. La différence entre les deux pour les auditeurs, c'est que la fracturation, on augmente la pression dans le sol jusqu'à ce que la roche commence à éclater par la pression. Et ensuite, on injecte des petites billes qui vont empêcher ces fractures-là de se refermer quand on va retirer le liquide. Dans le cas de l'acidification, on on élargit les fractures naturelles dans la roche en la dissolvant à l'aide d'un acide très puissant. La recette d'acide va changer en fonction de la composition du sous-sol. Madame Savaria parlait de grès là, dans le cas des gisements en Gaspésie. Il y a aussi de la silice. Bref, on va injecter de l'acide chlorhydrique. Puis ce qu'on a vu, pour dissoudre la roche et agrandir les fissures par lesquelles les hydrocarbures vont pouvoir migrer vers le puits. Puis ce qu'on disait, nous, avant qu'ils commencent à faire ces travaux-là, c'est qu'éventuellement, les fissures qu'ils allaient créer allaient rejoindre la nappe phréatique puis qu'il allait avoir de la contamination. Et ce qu'on a découvert en accès à l'information, à travers les relevés de prélèvement d'eau dans la nappe souterraine autour des puits à bourg, c'est qu'effectivement, les produits qu'ils ont injectés pour acidifier ont migré vers la nappe phréatique, ou en tout cas, il y a des dérivés de ces produits-là qui ont migré vers la nappe phréatique puis qui l'ont contaminé. On parle d'une augmentation très significative du taux de barium dans l'eau, du manganèse, des sulfates, des chlorures. Sulfate, chlorure, c'est pas nécessairement toxique. On en met du chlore dans l'eau. Mais manganèse, barium, ça l'est beaucoup plus. Et la turbidité de l'eau, là, ça, le fait qu'elle soit transparente ou pas, là, la quantité de solide dissous dans l'eau, elle a explosé également. Donc, on a plusieurs paramètres comme ça d'analyse de l'eau qui ont été multipliés par un facteur de 30. Qui est quand même gigantesque. Et ce qu'on voit avec les analyses qui se répètent depuis toutes ces années-là, là, on a commencé, la procédure d'acidification a eu lieu en 2016 et on a eu des rapports de 2017 à 2021. On a une augmentation fulgurante de certains contaminants dans les premières années, 2017, 2018, 2019. 2020-2021, ça tend à se résorber un peu, mais on comprend qu'il y a une circulation des eaux souterraines et donc que les contaminants qui ont ressurgi autour du forage pétro-gazier à Bourg, dans la nappe phréatique, ben, vu que l'eau de la nappe phréatique circule, ben, ça tend à se dissiper dans tout le sous-sol. On ne sait pas si c'est possible de décontaminer une nappe phréatique. Là, les contaminants qui sont dans l'eau, c'est pas les contaminants qui sont les plus préoccupants. Puis comme Mme Savariol le soulignait, ben il n'y a pas de puits d'eau potable autour des forages à Bourg. Donc
c'est plutôt une bonne nouvelle.
C'est quand même une bonne nouvelle qu'il n'y ait pas d'humains qui boivent cette eau-là. Mais la même compagnie a foré dans la péninsule d'Haldimand, dans un jet de pierre, des puits d'eau potable de plein de monde. Et là aussi, il y a eu certaines contaminations. On n'a pas un inventaire complet, mais il y a aussi des risques pour l'eau potable dans ce secteur-là.
Oui, Madame Savaria, quelles sont les préoccupations environnementales que vous voyez liées à ce projet-là, à ces projets?
Comme explique mon collègue, c'est que dans le fond, ce qu'on voit, c'est que on va utiliser, c'est l'utilisation de produits. Premièrement, quand on parle d'acidification, pour revenir à Bourg, ben, en plus de l'acide chlorhydrique, il ajoute des additifs, donc 70 autres produits, et ça se retrouve éventuellement dans la nappe phréatique. Puis finalement, ça, pour Bourg, ben, c'est une bonne nouvelle que c'est pas des puits domestiques. Par contre, ça s'en va dans un cours d'eau, dans des cours d'eau qui ont de la vie, de la faune aquatique. Donc, ça vient détériorer la qualité du milieu. Ce qui me préoccupe aussi, c'est que les suivis qui sont faits, dans lesquels on parle, là, on a des résultats analytiques. Ben, comme on l'explique, on a des données, des résultats, mais l'interprétation de ça, et est-ce que les analyses, les paramètres analytiques sont corrects. Moi, ce que j'ai vu comme suivi pour le dossier d'Aldimand, le suivi était, il y avait très peu de données. Et ces données-là étaient, comme je dirais, ça ne suffisait pas à dire s'il y avait un impact ou pas. Mm-hmm. On n'utilise pas tous les résultats analytiques qu'on aurait besoin. Donc, on a peu d'informations. Ça, c'est inquiétant.
Vous Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Concrètement, quels sont les impacts pour les Gaspésiens, M. Bergeron? Qu'en est-il des risques, justement, pour la consommation, pour l'usage de loisirs?
Concrètement, tant que ça reste sous terre, dans le secteur de Bourg, il y a peu d'impact. On a parlé beaucoup de Bourg et d'Haldimand. Ce sont deux projets où on a vu des contaminations des nappes phréatiques. Dans son ensemble, l'industrie des hydrocarbures a aussi laissé au-dessus de 150 puits qui ont des impacts en surface. Et là, on a des résurgences d'hydrocarbures qui vont contaminer les cours d'eau. On a des sites qui sont à l'abandon, qui fuient du gaz, qui fuient du pétrole. C'est des lieux contaminés, c'est des lieux qui peuvent contaminer des sources d'eau auxquelles on s'abreuvait auparavant et auxquelles on n'a plus accès. Puis là, je veux pas non plus être alarmiste puis mettre le problème beaucoup plus gros qu'il est. Je veux dire, le territoire est grand. On n'a pas eu une industrie qui a exploité le territoire. Fait qu'on a juste, entre guillemets, 150 puits. C'est quand même pas tous ces puits-là qui fuient des hydrocarbures ou de la saumure. De la saumure, c'est l'eau salée qu'on trouve en profondeur. Puis cette eau-là, quand ça se retrouve dans les cours d'eau naturels, ben ça altère la qualité des cours d'eau aussi. Mais c'est ça. Donc, il y a des impacts en ce moment, mais comme on a réussi à contrôler l'implantation de cette industrie-là, les impacts sont encore mineurs, là.
Oui, Madame Savaria, est-ce que c'est toujours un moteur de l'activité économique de la région ou ça reste marginal? Et quels sont les acteurs dont on pourrait pointer du doigt là, de cette exploration pétrolière et gazière en Gaspésie?
Ouais. En fait, actuellement, avec il y a un projet de loi là, qui va mettre terme là, à l'exploration pétrolière au Québec. Donc, ce qui fait en sorte que ces termes-là, ils vont être rendus caducs. Donc, il n'y a pas de marché, au Québec, il n'y aura pas de l'exploration pétrolière ou l'exploitation pétrolière. C'est une décision gouvernementale. Alors, il n'y en a pas en termes... Les grands joueurs, c'était des petites compagnies de pétrolières qui c'était plus la... Je dirais qu'il y avait spéculé, qu'il y avait des possibilités de faire beaucoup d'argent avec ces forages-là. Mais malheureusement, il n'y en a pas de rentabilité. Donc, c'est pour ça qu'on. Bon, en plus, on s'en va avec l'énergie verte. Les joueurs qui étaient là, il y avait Petrolia, il y avait Junex, c'était des compagnies. Pas des grandes pétrolières, là. C'est plutôt des petits joueurs. Et ces gens-là, c'est ça, leurs permis vont être rendus caducs par l'avenue de la nouvelle loi.
Oui, c'est ça. C'est qu'on se souvient aussi des tentatives d'exploration d'Anticosti, un projet qui a été abandonné. Mais c'est ça. Qu'en est-il du projet de loi pour l'abolition des licences d'exploration d'hydrocarbures au Québec, des compensations aux détenteurs des permis? J'ai vu que... Vous avez...
Moi, j'ai collaboré avec d'autres collègues. Là. On a produit un texte qui dit que c'est aberrant. C'est aberrant de donner des compensations. Toute cette expérience-là qui a été faite au Québec, que ce soit en Gaspésie ou les Basses-Terres de Saint-Laurent, c'était largement subventionné et avec beaucoup d'avantages fiscaux aussi. Ce serait fou du gouvernement de payer deux fois ce qu'on a déjà payé une fois. Oui. Et en plus, ce qu'on n'a pas mis dans le règlement, dans ce projet de loi-là, c'est que, comme expliqué tout à l'heure, on a des puits qui sont fermés, mais qui dans 10, 20, 30 ans vont produire des contaminants. Et ces puits-là, il va falloir les colmater. Et ça va coûter des millions.
Oui. Et ça, c'est pas tenu en compte dans le projet de loi.
Le gouvernement, avec son projet de loi, il évalue qu'ils vont payer environ 100 millions de dollars pour sortir de là. Il y a le tiers de cette somme-là qui est dédié à fermer les puits qui appartiennent aux entreprises. Ils vont payer une partie, les deux tiers ou le trois quarts de la fermeture des puits. C'est vraiment plate qu'on se retrouve à payer pour fermer des puits qui n'auraient jamais dû être ouverts. En même temps, ce que le gouvernement fait comme calcul, c'est que s'il ne paie rien pour appuyer les compagnies dans la fermeture des puits, les compagnies risquent de juste déclarer faillite et de s'en aller. Il y a un choix politique qui est là avec lequel on n'est pas nécessairement d'accord, mais en même temps, on a un problème à régler par rapport à la fermeture. L'autre deux tiers des compensations qui est prévu au projet de loi, le 67 millions, ça c'est pour payer pour les coûts d'acquisition de licences qu'il y a eu dans les 6 dernières années, depuis octobre 2015. Puis là, c'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire que c'est qui a mis 67 millions de dollars au Québec en exploitation, en exploration pétrolière au cours des 6 dernières années? Ben, c'est Questerre qui a racheté Talisman. Talisman qui avait déclaré ses actifs échoués. Et Questerre a récupéré ça en se disant, nous autres, on va les convaincre, les Québécois, on va en faire des forages au Québec, puis on va leur montrer qu'on est capable de faire ça propre. Donc, c'est une compagnie qui savait qu'il y avait des très gros risques que son projet ne fonctionne pas et qui poursuit en ce moment le gouvernement du Québec pour obtenir le droit de forer, fracturer des puits dans la vallée du Saint-Laurent, obtenir des compensations. Ça, c'est Questerre. Après ça, il y a Pierre Hydré qui a racheté Petrolia. Même chose, eux autres, quand ils ont racheté Petrolia, on était en train de fermer Anticosti. La compagnie savait très bien qu'il y avait de fortes chances qu'ils ne puissent jamais terminer les projets Haldimand et Bourque. Et quand ils ont racheté Petrolia, en fait, ce qu'ils ont racheté, c'est la cote en bourse. Ils s'en foutaient un peu des puits en Gaspésie. C'était pas leur première préoccupation. Ils savaient que c'était des actifs échoués, puis là, dans le programme de compensation, on s'apprête à payer pour ces actifs échoués-là. Puis la dernière, je nommais tantôt Utica, c'est une compagnie qui appartient à un milliardaire autrichien. Ben, eux, on a une source à l'interne de la compagnie qui nous a informé sur le modus operandi, à savoir que Utica, ils se sont donné 2 ans pour forer et fracturer dans la vallée du Saint-Laurent, c'était ça leur priorité. Et s'ils ne réussissaient pas, ils allaient poursuivre le gouvernement pour les forcer à débloquer les permis pour forer et pour les forcer à compenser si tout ça ne fonctionnait pas. Donc, ils ont acheté les actifs de Ginex en sachant pertinemment que ce serait très probable qu'ils puissent jamais forer ici. Et c'est ça que le gouvernement prévoit compenser en ce moment à travers les indemnités qu'ils vont verser avec le projet de loi.
Et revenons du côté de l'environnement, peut-être. Quelles sont les actions entreprises par le gouvernement pour limiter la contamination des eaux? Madame Savaria.
Avec le temps, tu sais, au début, les forages pétroliers, bon, ce qui arrive, c'est qu'avec le temps, on va avoir de la contamination qui va venir par des fuites au niveau des gaz par les forages même. Donc, ce qui fait en sorte que il va y avoir une contamination qui va être dans le temps, qui va se migrer. On n'a pas les moyens, tu sais, on n'a pas les moyens de faire des suivis de qualité de l'eau là, de ces forages-là qui sont fermés. Et donc, on ne sait pas trop les impacts que ça a. Donc ça, c'est inquiétant, mais le fait de vouloir au moins les fermer, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc, les travaux vont être faits le plus rapidement possible.
Oui. Équiterre au secours et la Fondation David Suzuki réclament à présent un inventaire complet de la qualité des eaux souterraines pour tous les puits forés au cours des 20 dernières années, ainsi que tous ceux considérés comme problématiques par le gouvernement. Est-ce que c'est un pas dans la bonne direction et est-ce qu'on pourrait voir ce type d'inventaire-là, Monsieur Bergeron?
Mais en fait, c'est déjà prévu au projet de loi qu'on est en train d'adopter. On prévoyait une étude hydrogéologique pour le ministre de l'Environnement pouvait demander une étude hydrogéologique pour chaque puits foré avant 2014. À partir de 2014, il y a un règlement qui obligeait une étude hydrogéologique. Et c'est à partir de cette étude-là qu'on a appris la contamination à Bourque. Mais pour tous les puits forés avant 2014, il n'y avait pas de puits d'observation de l'eau de la nappe phréatique autour des puits d'hydrocarbures. Là, le projet de loi 21 venait corriger partiellement ce problème-là et les pressions qu'on a mises autour de l'adoption du projet de loi ont fait en sorte que le gouvernement l'a modifié pour rendre cette étude hydrogéologique-là obligatoire pour chacun de ces puits-là forés potentiellement dans les 20 dernières années. Là. Donc, c'est un gain qu'on a réussi à avoir en mettant la pression sur le gouvernement à travers différents échanges. L'analyse du projet de loi, ça se fait dans les dernières semaines, ça va se poursuivre au cours des prochaines semaines également. On a eu une écoute relativement attentive du gouvernement en place. Dans d'autres dossiers en environnement, ils ont très mal fait. Ici, on sent qu'il y a une ouverture pour intégrer des mesures, des améliorations comme celle-là. Là. Ils nous ont entendus sur l'étude hydrogéologique par rapport à l'accès à l'information. C'est un volet hyper important au niveau environnemental. C'est-à-dire, c'est pas tout que le gouvernement il est donné entre les mains. Il faut que le public y ait accès pour pouvoir exercer son rôle de chien de garde. Puis ça, ben, il y a encore des débats qui sont en cours. Mais on a quand même des chances d'être entendu là-dessus aussi. Là. Mais on exige d'avoir tous les documents que le gouvernement va produire puis que les entreprises vont produire dans le cadre de la fermeture des puits, des projets pilotes aussi. On parle de projets pilotes de stockage d'hydrogène, de CO2. C'est quand même des choses qui ont des gros risques technologiques. On veut avoir l'information sur ces projets-là. On veut que le public ait son mot à dire. On veut qu'il y ait des débats.
Oui, c'est un dossier à suivre, donc. Merci beaucoup. On était en compagnie de Pascal Bergeron, porte-parole du groupe écologiste Gaspésien Environnement Vert Plus, et de Chantal Savaria, qui est présidente fondatrice et directrice générale de Savaria Expert Conseil. Merci.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche, Fanny Robertcher. À la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Écoutez nos rediffusions sur votre radio ou sur le site de l'agence Science Presse. J'espère que vous avez aimé l'émission. Partagez-la. Bonne semaine.
Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique, pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome de...